Bonjour et bienvenue dans l'Étoile Polaire. Ça va,
Bonjour.
Pierrick?
Oui, ça va et toi?
Ça va. Alors, en ce dimanche, nous allons parler d'astronomie amateur ensemble sur RDWA pendant à peu près 1 heure. Alors, dans cette émission, de quoi on va parler aujourd'hui, Pierrick?
Alors, on fait un petit sommaire.
Faisons un
Donc,
sommaire.
le ciel ce soir.
Le ciel
Donc,
ce soir.
comme d'habitude, on décrit le ciel qu'on voit actuellement. Après, on va parler de notre magnifique poubelle orbitale.
La poubelle orbitale, les déchets autour de la Terre.
50 ans, on a fait pas mal. Après, Fred, tu vas nous faire
Un petit point
un exposé
d'astronomie.
sur
Un
la...
exposé, grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit A. Un petit point d'astro sur ce qu'on appelle la masse manquante ou la matière noire. On verra ce que c'est.
Trop bien.
Ouais. Après une petite pause musicale là que tu nous as concoctée, Pierrick.
Ouais, je vous en parlerai mieux tout à l'heure.
Ok. Ta chronique
Et...
sur l'exploration
Ouais, donc
spatiale.
on va finir avec notre petite sonde Voyager,
Ouais.
qui est partie pour l'espace avec une bouteille à la mer avec elle.
Une bouteille à la mer, ouais, le fameux
Le
disque
disque
d'or.
d'or,
On va parler de
Golden
ça.
Records.
Et pour finir la rubrique Abrac, on terminera le cycle de 3 émissions sur Newton avec Newton l'alchimiste. Ouais. Vaste programme.
Ok, donc le
Alors,
ciel
qu'est-ce qu'on
ce
voit?
soir.
Ouais, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel?
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce que je vois toujours, que je trouve très beau, c'est Orion
C'est vrai.
et la ceinture d'Orion. Donc, tu vois ces trois étoiles bien alignées, entourées de Bételgeuse et Rigel, qui sont des étoiles qui brillent fort.
On
Donc,
a
en ce
une
moment,
bleue et une orange.
oui, elles ont deux couleurs.
J'oublie
Hein.
toujours le nom de laquelle est
Ouais.
laquelle, mais il y en a une bleue et une orange. Orange rouge.
Donc elle est plutôt basse sur l'horizon, mais on peut pas la rater. Trois étoiles alignées, elle est chouette.
Plein sud.
Ouais. En dessous, il y a une petite nébuleuse. Alors si on prend le temps, on peut apercevoir quelque chose. Les nuits bien claires.
La grande nébuleuse d'Orion, ouais. On
Ouais.
en avait bien parlé la semaine dernière. Donc juste sous la ceinture, hein, cette petite tache, je ne sais pas si vous l'avez observée.
Voilà. Après, donc il y a toujours la grande ourse et Cassiopée. Donc ça, elles sont toujours là, elles.
Ouais,
Mais
elles
tu nous
sont
en parleras
toujours
mieux
là.
après. Et aussi au niveau des planètes,
Ouais.
la dernière fois, moi je voyais Vénus et la Lune qui était un petit croissant là, qui était juste au-dessus. Donc le soir là, c'est toujours beau, je trouve, d'observer ça. Ça fait du bien.
D'ailleurs, ça nous amène à, parenthèse, un petit mea culpa sur l'émission de la semaine dernière où je t'avais repris 2 fois pour dire des bêtises en fait. Donc, effectivement, Vénus, le soir, une des premières entre guillemets étoiles à apparaître. Alors, on avait dit que c'était pas une étoile, c'était une planète, mais voilà. Et aussi, quand les miroirs des télescopes sont bien concaves, hein, comme tu l'avais dit, voilà. Je
Oui,
ferme la
on fait
parenthèse,
tous des erreurs.
c'est ça. Ouais, donc tu disais toujours au nord, Cassiopée, la grande ours, la petite ours, le dragon, Céphée, donc autour de l'étoile polaire. Alors ces constellations-là, on les appelle circumpolaires. Ça veut dire qu'on les voit toute l'année, sous nos latitudes. Le ciel, on l'a dit, il change. D'ailleurs, si vous observez le ciel, par exemple au petit matin, là ce qu'on a décrit, Orion, même le lion, tout ça, donc ce ciel de début de soirée. Si par contre vous attendez l'aube ou quelques heures avant, à partir de 3-4 heures du matin, vous avez le ciel d'été en fait. On voit apparaître eh bien, la couronne, Hercule, Ophiuchus, et ensuite le triangle d'été avec surtout le cygne et la lyre. L'aigle, il est quand même dans les lueurs du matin. Donc voilà, tout dépend aussi de l'heure à laquelle vous souhaitez scruter le ciel. Donc les constellations circumpolaires toute l'année, et par contre, bah, elles vont changer de sens. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, Cassiopée et la Grande Ourse s'inversent parce qu'elles sont un peu symétriques en fait
Ouais, elles sont l'une en face de l'autre.
par rapport à la polaire, par
Ouais.
rapport à l'étoile polaire. Si vous voyez la Grande Ourse, et bah, vous... alors il faut trouver la polaire. Tiens, bah, on peut le dire. Comment on trouve la polaire à partir de la Grande Ourse?
C'est vrai. Alors, il faut prendre l'extrémité de la grande ourse.
Alors l'extrémité, donc la grande ourse, on va dire que les étoiles les
C'est...
plus brillantes, elles forment ce qu'on appelle une casserole. On voit bien les pattes de la grande ourse en fait qui sont devant mais qui sont plus faibles. Mais bon, donc on va dire la casserole pour démarrer, et on prend le... Alors c'est pas le fond de la casserole, c'est le côté le... opposé au manche.
Ouais, ouais, exactement.
Et lui, en fait, on va le prolonger 5 fois.
Ouais, la distance qui est entre les deux étoiles opposées au manche.
En fait, il n'y a pas besoin de compter.
5 fois, moi je prends ma main.
Ouais.
Je prends ma main entre les deux étoiles et je reporte 5 fois.
En fait, autour, l'étoile polaire n'est pas elle-même très très brillante, mais autour, il y en a encore moins des étoiles brillantes. Donc en fait, si juste vous prolongez la direction avec un peu d'habitude, sans compter, vous tombez dessus. Il n'y a rien d'autre à côté, en fait. Et donc là, l'étoile polaire, elle appartient à la constellation de la Petite Ourse. Et la constellation de la Petite Ourse, elle est assez faible, sauf les deux étoiles... Alors la Petite Ourse, c'est aussi une casserole, en fait. Et donc, il n'y a que deux étoiles qui sont un peu brillantes avec la polaire, c'est celle du fond aussi, enfin le côté opposé au manche, encore une fois. Comme le même côté qui nous avait servi à trouver l'étoile polaire dans la Grande Ourse, et bien celui-là, il est assez visible dans la Petite Ourse, mais le reste, c'est assez faible. Voilà, et donc Cassiopée et la Grande Ourse, elles sont symétriques par rapport à l'étoile polaire.
Et juste l'étoile polaire, c'est le départ du manche de la casserole de la Petite Ourse.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et en face, il y a Cassiopée, du coup, voilà. De l'autre côté.
Et alors, quand vous avez repéré ça, donc, comme on a dit, visible toute l'année, donc ça c'est bien, on peut s'entraîner à les repérer assez vite. Entre les deux, en fait, entre la Grande Ourse et la Petite Ourse, serpente le dragon. Alors lui, c'est une assez longue constellation, donc trouver sa courbe, ça demande un petit peu d'habitude. Mais c'est très, une fois qu'on l'a visualisé, c'est vraiment joli. Et lui, il est tout le temps au zénith, quasiment, en fait. Donc, on a toujours ce dragon là au-dessus de nous. Il a une tête aussi avec deux yeux qui sont deux étoiles un peu plus brillantes. Belle constellation à chercher, le dragon, et à observer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le ciel ce soir. Alors, on va passer un peu à la question d'actualité. Là, l'autre jour, je suis tombé sur cette information là, rapide, mais il parlait d'un satellite qui s'appelle Spaceway One. Donc c'est un satellite de télécommunication, je crois. Bon, en tout cas, ce satellite, il est défaillant. Il a un problème technique qui fait qu'il est possible qu'il explose.
Que la batterie explose.
Ouais, mais bon, voilà, on ne sait pas. En tout cas, qu'il y a une explosion qui crée des débris qui vont ensuite aller polluer l'orbite. Quoi. Et le problème, en fait, c'est que ce satellite, il est sur une orbite très, très utilisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est à une altitude... Parce que les satellites, ils tournent autour de la Terre, c'est pas des vaisseaux. Ils sont placés, en fait, en orbite à une certaine hauteur, qui va déterminer la vitesse, du coup, à laquelle ils tournent autour de la Terre, mais c'est la gravitation qui détermine ça.
Tu veux dire que des fois, ils tournent plus vite que la Terre ou...
Voilà, selon où ils sont placés,
ouais.
Okay. Et donc, il y a une orbite aussi qui est très appréciée, c'est celle qu'on appelle géostationnaire. Donc, c'est 36 km d'altitude. 36 000. Oh, j'ai un doute d'un coup. Non, 36 000 km. 36 000 km d'altitude, c'est l'orbite où en fait on ne bouge plus du même point. On est toujours au-dessus du même point de la Terre. On tourne en même temps qu'elle, en fait.
Ok, alors, ouais, on est au-dessus et on est fixe par rapport à la Terre.
Ouais, et donc ça c'est utile pour la météo, pour couvrir une zone, en fait.
Ouais.
Ça intéresse beaucoup de monde, les civils, les militaires et d'autres. Bon bref, et donc sur cette orbite-là, il y a du monde. Et donc s'il y a des débris qui commencent à se balader, on a dit là, dans l'espace, c'est 10 km par seconde à peu près.
Si ce satellite explose, ça va générer des millions de débris et ça va être
ça peut être un gros carnage. Et du coup, là, ils sont un peu en train de se dire, il va falloir faire quelque chose. Et ils parlent de créer donc un organisme de surveillance du ciel. Parce qu'en gros, ça devient la poubelle. Et c'est clair que depuis 50 ans, le nombre de boulons explosifs, de débris, des taches de fusée, de machins, de trucs en tout genre qui tournent, en fait, autour de la Terre, ça devient miné. Donc en 50 ans, on a...
Ça y est, on a déjà tout
pourri. On a déjà réussi à faire un peu ce qu'on en a bien, bien fait ici. Voilà. Et ça, c'est déjà commencé. Et on peut voir des cartes, en fait... Oui, en trois dimensions, on matérialise la Terre et on fait un petit point, un petit pixel hein, pour chaque débris qui tourne autour de la Terre. Et on a déjà un petit nuage, en fait, des petits anneaux. Il y a déjà des petits anneaux de débris de l'activité spatiale humaine. Quoi. Voilà.
Bientôt, on ne pourra plus sortir de la Terre.
Si on pousse le délire, pourquoi pas faudra tirer à gros coups de laser pour envoyer un passage et après on pourra envoyer des cons. Ouais.
Je sais pas si vous avez vu le film Gravity, mais ça parle de ça. Et, bon, le film il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas on comprend mieux ce qui peut se passer. Si d'un coup il y a des débris qui se mettent à exploser partout, à tout casser, à générer d'autres débris et ainsi de suite. C'est un truc sans fin en fait.
C'est ça.
Et après c'est fini. Il y a
on peut plus passer. Voilà. ouais, complètement. Bon, en tout cas, voilà, là on en est au début, mais déjà il commence à se dire qu'il faudrait faire quelque chose. Connaissant. Bon, là il y a des sous en jeu. Là ça va peut-être les motiver parce que c'est pas une décharge publique par exemple à côté d'une école, ça c'est pas très. Non, ça c'est quelque chose de sérieux. On parle de satellites de télécom ou de trucs comme ça, donc qui valent des millions de.
Parce que jusqu'à maintenant, il y avait que les Européens qui prenaient de l'importance à ça. Peut-être que là, les Russes et les Américains ils vont commencer à se poser des questions.
Par rapport
aux satellites, aux débris, etc. Parce que pour l'instant, on n'a rien à cirer.
C'est ça. Ok. Donc après ces petites réflexions sur le comportement humain dans sa sphère proche, dans sa géographie étendue...
On peut pas s'empêcher de tout pourrir. Hein.
Non, mais bon, sans. Mais ça, là, c'est un constat. Quoi.
Et ouais.
C'est un constat que, en tout cas, pour l'instant, l'humain, il fonctionne comme ça. Ok, alors, on va passer au point d'astronomie.
Un truc plus léger.
Alors, plus léger, et en même temps. alors, cette semaine, on va pas vous assommer avec des détails physiques, sur la physique, tout ça, ou des concepts. On va parler de matière noire, de masse manquante. Alors, vous avez peut-être déjà croisé un article ou un titre dans une revue scientifique ou même parfois dans un journal classique qui parle de ça. Je sais pas, Pierrick, toi, t'es déjà tombé là-dessus ou pas ?
Oui, bien sûr. Alors, moi, il y a matière noire et énergie noire. Alors, déjà.
Énergie noire, je sais pas trop. J'imagine que c'est probablement une espèce de tentative de réponse au problème de la masse de la matière noire. Mais vas-y, ouais.
Ouais, non, moi j'en sais pas plus. Hein.
Ok. Bon, l'idée en gros, mais c'est vrai qu'ils en parlent pas beaucoup.
Non, et puis c'est abstrait, c'est fou.
Alors c'est très abstrait parce qu'en fait ils ont aucun. Alors le problème est le suivant. On a parlé de la gravitation. Ça, on a un modèle sur la gravitation qui marche bien. On peut décrire bien comment la Lune tourne autour de la Terre et les astres, etc. Tout ça, ça marche. Mais le problème, c'est que quand on regarde comment tourne, par exemple, une galaxie autour de son centre, parce que les galaxies aussi ont un centre, il n'y a pas que les planètes, elles tournent autour des étoiles, mais les étoiles, toutes les étoiles de notre galaxie, elles tournent autour du centre galactique. Il n'y a rien de façon de fixe, quoi. Et même tout ce centre galactique, il tourne par rapport à une espèce de centre de gravité d'un amas de galaxies qui est à notre voisinage. Donc, de toute façon, il n'y a pas de fin à ça.
On est toujours en mouvement.
Voilà. Donc, quand les astrophysiciens ils font la somme de toutes les étoiles qu'ils observent, des galaxies, de tout le gaz, de tout ce qu'ils voient, ils estiment la masse de tout ça.
Par rapport à la lumière qu'on reçoit ?
Non, par rapport à la quantité. Par exemple, sur notre galaxie, ils ont une cartographie. Bon, ils peuvent pas tout voir de la galaxie. Quand on va vers le centre, on peut pas tout voir. Et donc, on peut pas voir derrière le centre non plus. Mais il y a plein de choses qu'on peut voir, et on peut extrapoler, on peut faire des estimations. Et ils font des estimations, donc, en fonction des observations, de la densité d'étoiles qu'ils observent dans le ciel, etc., pour savoir combien il y a d'étoiles, combien ça pèse tout ça.
D'accord, ouais.
Et quand ils sortent leurs chiffres, ça marche pas. C'est-à-dire que pour que ça marche, par rapport à la façon dont ça tourne, selon les lois de la gravitation, etc., il leur manque 90% de masse. C'est-à-dire qu'en fait, ils trouvent, par exemple, je sais pas moi, 10 milliards de milliards de tonnes, c'est beaucoup plus que ça, hein, mais... Et ben en fait, il leur en faudrait 100 pour que ça marche. Des milliards de milliards de tonnes.
À chaque fois...
Et ils en trouvent que 10. Et donc...
À chaque fois, ils rajoutent une constante.
Non, ils rajoutent rien. Ils disent juste, ça marche pas. Et ils en sont conscients, quoi.
Comment ils savent que ça marche pas, du coup?
Ben parce qu'ils voient comment les étoiles elles tournent, ils voient comment les galaxies elles tournent, à quelle vitesse elles tournent,
ouais.
Ça ils le mesurent.
Ok.
Ils voient combien il y a d'étoiles, combien ça pèse tout ça. Et ben selon la masse qu'ils trouvent, ça peut pas tourner comme ça.
Ah oui, ça correspond.
Donc
pas
ils ont pas d'explication.
D'accord.
Ça colle pas dans les applications numériques en fait.
D'accord. Ouais.
Il manque, comme je dis, 90% pour que ça fasse le compte. Donc ils expliquent qu'il existe une matière noire C'est-à-dire noire au sens qu'on ne la voit pas.
Oui, on peut pas la mesurer, mais...
Non, mais c'est même pas... On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas... Mais il doit exister quelque chose qui a de la masse.
Dans l'espace.
Forcément, dans l'espace, autour de nous. Et il doit y en avoir une quantité qui est 10 fois ce que j'observe. Ce que nous observons. Donc c'est pas rien. C'est pas, il en manque un peu, quoi.
Ouais,
c'est il en manque 10 fois ce que je vois.
Ah ouais, c'est énorme.
Alors d'un coup... mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire... En fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que selon leur propre modèle... Il y a 90% de ce qui constitue l'univers, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être. 90%.
Tu veux dire...
Aucune idée, aucun début d'idée. Alors, voilà, vas-y.
Dans le vide de l'espace, tu veux dire qu'il y a une matière qu'on n'arrive pas à voir, à mesurer, rien du tout, mais qui est là et qui,
alors,
qui pèse.
C'est ça. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens qui face aux problèmes qu'ils ont, en fait, de pas arriver à faire coller les équations d'un modèle qui marche, qu'ils arrivent à vérifier dans plein d'autres cas.
Ouais, mais là, ça marche pas.
Et là, ça colle pas. Et pour que ça colle, il faut faire x10 sur la masse.
Ok.
Voilà. C'est ça le problème de la masse manquante ou de la matière noire. Donc, la conclusion que tirent les physiciens, c'est de dire, bon, puisqu'il y a ce décalage-là, j'en conclus qu'il existe une matière, il existe quelque chose qui pèse, qui a une masse. Parce que, par exemple, la lumière n'a pas de masse. Donc, ça ne peut pas être que de la lumière. Ça ne peut pas être de l'énergie pure.
D'accord.
Un photon ne pèse rien. La lumière n'a pas de masse.
Ok.
D'accord. En fait, c'est un peu cette idée, quelque chose qui a de la lumière peut aller aussi vite, à cette vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser, ou en tout cas que nous, on n'imagine pas qu'on puisse dépasser. Pour avoir cette vitesse-là, il ne faut pas avoir de masse. Et à l'inverse, dès qu'on a de la masse, on ne peut plus atteindre la vitesse de la lumière.
Oui, ça paraît logique.
Il y a un peu cette idée-là, quoi. L'échange en fait de vases communicants entre la vitesse et la masse.
Ouais. D'accord.
Enfin, et l'énergie et la masse en fait.
Ils supposent qu'il y a quelque chose, mais peut-être qu'ils se plantent dans leur calcul.
Alors voilà, tout est possible. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là, ça.
Ouais.
Donc moi, c'est de ça dont je veux parler. C'est pour ça que je dis déjà que je voulais mentionner et un peu pointer du doigt parce que je trouve que voilà, pour ça remet un petit peu aussi les limites des choses. C'est-à-dire que la science, c'est bien, c'est une chose, ça a plein d'applications. La technologie, c'est autre chose que la science aussi. C'est pas la même chose.
Ouais.
Et tout ça, en fait, ça n'est pas forcément toute la vérité, quoi. Je veux dire, et même les scientifiques, un vrai scientifique le dit lui-même. Il dit, moi, j'essaye d'expliquer des choses, je prétends pas tout savoir. Mais il y a quand même une dérive un peu du discours vers quelque chose de plus scientiste où on dit, bah attention, tout ce qui n'est pas dans le cadre de ce que la science décrit, donc la physique, hein, dans la nature de l'univers, alors ça n'existe pas. Là, il y a une dérive quand même.
Et ouais, et du coup, ça devient un peu fermé.
Et quand
ça manque d'ouverture sur.
Ouais, ça manque d'ouverture sur toujours la remise en question, sur le fait que même les scientifiques eux-mêmes doivent bien reconnaître qu'en 2000 ans, la vision elle a énormément changé. Et que qui sait dans 2000 ans où on en sera si on est encore là. Enfin, voilà.
Ouais, de prendre du recul.
Donc, on sait aussi, l'histoire des sciences, elle a montré qu'à chaque étape, il y a eu des conflits entre des gens qui avaient des idées novatrices, etc., qui sont toujours heurtés à l'establishment pour ensuite être reconnus et portés au nu. Voilà. Mais qui, au départ, rencontrent forcément.
Ouais, des obstacles qui sont toujours mis de côté. Et ouais.
Donc, on le sait, tout ça. Donc, les gardiens du temps, tout ça, ok, très bien, mais...
Il y a des choses qu'on n'explique pas, mais qui sont là.
Voilà, et ça, je trouve que c'est quand même un argument qui est de dire, bah voilà, il y a cette histoire de masse manquante, et c'est pas rien, et c'est pas une invention, hein, c'est quelque chose de documenté, de très sérieux, et donc il y a toute cette recherche. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait des pistes, parce que je dis qu'il n'y a pas de pistes, c'est pas vrai, il y en a toujours.
Ouais.
Là, moi, j'ai vu des pistes sur le milieu interstellaire. C'est-à-dire qu'ils auraient sous-estimé la quantité de gaz en fait qui se balade, de gaz, de poussière, de tout ça qui se balade en fait entre les étoiles.
Ouais.
Et ça, c'est tout à fait possible parce que pour le coup, il y a quand même
Oui, parce que ça, on peut pas l'avoir nous de la Terre, c'est difficile. Voilà. Ouais.
Donc ils ont quand même ces. Alors, mais en fait, la question, ils ont aussi cherché du côté de la physique théorique. C'est-à-dire d'essayer de... C'est pour ça qu'ils étaient tellement obsédés par l'idée du boson. Je sais pas si vous avez... Il y avait l'idée de montrer que cette particule avait une masse.
Ouais.
Voilà. Et en fait, bon, c'est de la physique théorique et de physique des particules vraiment ultra pointue, mais c'est vraiment quand on va décomposer dans les infimes rouages de la matière, quoi, à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des protons, à l'intérieur de tout ça. Donc là, on explore vraiment le plus petit que nous, on peut observer en tout cas, enfin, observer, en tout cas détecter, bref. Là-dedans, si ces particules-là avaient des masses, comme il y en a des quantités phénoménales en fait dans l'univers qui se baladent, là, ouais, c'est pour expliquer des choses. Donc c'est pour ça qu'ils sont, c'est un point de physique qui creuse beaucoup. Ils cherchent à prouver qu'il y a
Il y a tellement de vide dans l'univers, ouais, que finalement, même si ça pèse rien, ça, voilà, pourrait avoir beaucoup d'enjeux, d'impact. Voilà. Ok.
Comme on le disait, il y a 100 milliards d'étoiles peut-être dans notre galaxie en moyenne. Ça fait quand même et chacune est distante de quelques années-lumière, donc ça fait quand même un vaste espace, quoi.
Et ouais.
Voilà, donc c'était ça un peu cette idée de masse manquante, et c'était aussi donc un peu d'humilité par rapport au discours scientifique, moi je trouve, sans forcément le critiquer plus que ça, mais le remettre à sa place. Nous, en tout cas, dans l'étoile polaire, c'est un peu le parti pris qu'on a décidé de prendre. Ça va être aussi un peu le fil conducteur de l'émission.
D'explorer nos limites et...
Et je rappelle...
Et de voir toute notre... On est humain, quoi. Du coup,
on est humain.
Et nos limites, et la Terre aussi, et l'espace aussi. On peut pas... enfin,
tu et vois, les possibilités humaines sont vraiment vastes.
Ouais, voilà.
Donc voilà, ça, c'était ce qu'on voulait vous dire sur le sujet. Pierrick, quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la pause musicale?
Bah écoute, ouais, c'est toujours la même histoire, ce que je dis, de voir nos limites, qu'on vit sur un monde fini, qu'on... Mmh. Toi, il y a tout cet aspect-là un peu idéologique de se dire, ça y est, quoi, faut peut-être bien réfléchir à ce qu'on fait et essayer d'aller plus loin, essayer de mieux comprendre.
Un peu de responsabilité, en fait.
Ouais, voilà. Mmh. De se responsabiliser et de comprendre mieux ce qui nous entoure tout casser.
Ok, alors sur ces vœux pieux, on va écouter un petit peu de musique et tu nous raconteras après d'où sort ce morceau. À tout à l'heure.
Eh bien, rebonjour, vous êtes toujours sur l'étoile polaire. C'est Fred et Pierrick qui vous parlent d'astronomie. Et du coup, vous venez d'écouter le morceau de Dark Was the Night.
Ouais, super
de Blind bon Willie Johnson.
Blind Willie Johnson, ouais, je connaissais pas ce morceau vraiment. Ouais.
Le vieux bluesman. Ouais, c'est sympa, ouais.
Alors, d'où ça vient ça?
Alors, ce morceau, il est tiré du Voyager Golden Record, donc le fameux disque d'or, qui est parti comme une bouteille à la mer dans l'espace. Et s'il y a des extraterrestres qui le trouvent, ils pourront apprécier le super son de Blind Willie Johnson.
Alors attends, de quoi tu parles? Donc un disque d'or qui est parti avec la sonde Voyager, avec des informations dessus.
Et ouais.
Et dont ce blues.
Exactement.
Donc si des extraterrestres trouvent Voyager, ils pourront écouter ce blues.
Bah, s'ils arrivent à lire le disque. Ce qui n'est pas à gagner, gagner.
Alors, ce disque ressemble à quoi? C'est quoi?
C'est comme un vinyle.
Un vinyle?
Ouais.
Mais en or?
Ouais.
Ok.
La classe.
Donc, on rappelle l'année hein, de Voyager.
Ouais, qui est parti en 1977.
Voilà. Donc, vinyle, on est en plein dedans.
Et ouais.
Ok.
Et donc, nos petites sondes. Donc, la dernière fois, elles avaient passé Uranus et Neptune. Mmh. Et après, elles ont continué leur route. Donc, elles ont passé la ceinture de Kuiper, comme on disait.
Je disais, ouais.
Et elles sont allées chercher, surtout Voyager 1, qui est plus loin que Voyager 2.
Ah oui.
Elles sont allées chercher une onde de choc.
Une onde de choc.
Ouais, c'est-à-dire que elles s'approchent de la zone où le vent solaire bute sur l'espace interstellaire.
Ok.
Comme si à un endroit, il y avait deux zones qui se rencontraient. Que dans l'espace interstellaire, il y avait comme de la poussière cosmique. Ou...
Ouais, le vent solaire. Alors, la poussière, ouais, c'est un mélange, mais c'est, on peut parler un peu de ça quand même. Le vent solaire, ça, c'est un truc que les astronomes étudient. Et, alors, il ne faut pas imaginer. Le vent sur Terre, c'est l'air qui bouge.
Ouais.
Donc, c'est ça, c'est les masses d'air qui se déplacent et ça fait des courants d'air. Ok, mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc on peut pas parler d'un gaz là dans l'espace. Alors en fait, un vent solaire c'est constitué, oui, de particules. Il peut y avoir du gaz dedans, mais c'est surtout des particules et de l'énergie, des photons.
Donc c'est
beaucoup
photons.
Des électrons, ah ouais. Beaucoup de neutrons, de neutrinos, de photons et d'électrons qui viennent du Soleil.
D'accord.
C'est ça surtout qu'on appelle le vent solaire. Et ça génère en fait une poussée.
Et ouais, en fait l'idée c'est que autour du Soleil il y a une espèce de boule. Mais une boule allongée en fait, comme une goutte d'eau,
ouais.
Et les vents interstellaires viennent englober ça et faire une espèce de queue, de traînée derrière.
Ok. Et donc ça n'a rien à voir avec le mouvement du soleil en fait. C'est un autre vent, il sort d'où ce vent, on sait pas trop.
Eh ben, on sait pas trop, ouais. Mais c'est ce qu'ils disent, les dernières théories.
C'est quand même marrant de parler de vent. Du coup, là, ce serait un vent interstellaire, un vent entre les étoiles.
Ouais. Et du coup, ils ont eu de la chance parce qu'ils savaient pas ça avant que Voyager arrive par là. Et ils sont sortis par la tête de cette espèce de goutte d'eau, là, par l'avant. Du coup, c'est beaucoup plus court que par la queue, tu vois, ça aurait été super long d'aller dans l'autre sens.
Ouais. Donc là, il faut directement attaquer l'espace interstellaire.
Voilà.
Ok.
Donc voilà. Donc Voyager, ouais. Et du coup... Elle se dirige dans l'espace interstellaire. Donc Voyager 1, elle se dirige dans la constellation du Girafe. La Girafe, dans 40 000 ans, elle y sera.
Okay.
Et Voyager 2, elle se dirige vers Sirius. Et elle y sera dans 296 000 ans.
Ok.
Voilà, pour poser le truc. Et donc, ils ont eu l'idée, la bonne idée, de mettre une trace de nous, des êtres humains.
Ah oui,
sur ces sondes, et donc il y a ce fameux disque d'or. Donc le morceau qu'on vient d'écouter, le petit blues là, eh ben, il se perd dans l'espace.
Redis le nom du bluesman.
Blind Willie Johnson.
Blind Willie Johnson, ok.
Et donc ils ont fait ce Voyager Golden Record. Donc c'est Carl Sagan qui a été en partie celui qui a réalisé ça. Et donc dessus. Ils ont mis des nombreuses informations sur la Terre, donc des photos, des sons, des gens qui parlent, des cris d'un nourrisson, de la musique, des textes. Ils ont dit bonjour en beaucoup de langues. Voilà. Donc après, si on peut détailler un peu ce qui m'a marqué, par exemple dans les photos, tu vois, ils ont mis une carte donc du système solaire. Où est placé le système solaire par rapport aux étoiles les plus brillantes qu'on voit qui nous entourent.
Donc, voilà, où nous sommes.
Voilà.
Sur une petite carte de ce qu'on connaît autour de nous. Ouais.
Donc ils ont mis ça. Ils ont mis des unités de physique, un spectre de couleurs sur les photos. Mmh. Une photo des pyramides d'Égypte.
Ah ouais.
On sait jamais, des fois c'est un lien, je sais pas. Une séquence d'ADN, tu vois, la vie quoi. Donc une photo d'anatomie humaine, homme, femme, un fœtus, des scènes de vie quotidienne, paysages, des forêts, des dunes, des montagnes, des animaux, des danseurs, des musiciens. Le Taj Mahal.
Le Taj Mahal.
Okay. Ah, c'est la classe, le Taj, quand même.
Ouais. Ouais, ils ont essayé un peu de représenter la culture humaine et la vie sur Terre.
Ouais, il y a 116 images.
Ok, c'est pas énorme.
Ouais, peut-être à l'époque, ils avaient moins de mémoire que maintenant.
Ah, ben, ça, c'est sûr. Hein. Là, je crois que l'ordinateur de bord de ces sondes, de son Voyager, c'est l'équivalent. Je sais pas si certains se rappellent ou connaissent des MO5 là, enfin c'était ça, c'était 32K de mémoire. Ça c'est 32, c'est rien du tout.
Ouais, c'était vraiment, il y avait pas grand chose.
32K, 32 kilobits, rien.
Mmh. Ils ont réussi à le faire.
Et ça marche toujours. On disait, on va encore communiquer avec toutes ces grosses antennes dont tu parlais là en
grec. Ouais, ça fait 40 ans et ouais, on communique toujours avec elles. Mmh. D'ailleurs, à ce sujet, Voyager 1 était un peu endommagé. Du coup, il voulait faire des mesures justement sur ces espèces de vents interstellaires et tout ça. Et le détecteur à plasma de Voyager 1 marche plus. Mais sur Voyager 2, il marche.
Okay.
Donc dans quelques années, elle va arriver au même endroit que. Ouais. Après, ils en sauront plus.
Ouais. D'accord.
Voilà, petite précision. Donc je reviens au disque d'or.
Oui.
Et du coup, il y a aussi de la musique. Donc ce qu'on vient d'écouter.
Ouais.
Il y a aussi beaucoup de classiques, donc Bach, Mozart, Beethoven. Tu vois, il y a des morceaux de flûte du Pérou, du didgeridoo.
Ah, quand même. Ah, quand même. Une panique du Barbara Streisand et du Elvis.
Non, mais il n'y a pas trop de trucs comme ça. Hein.
Ah, tu disais qu'il y avait quand même Johnny B. Goode.
Ouais, Chuck Berry.
Ouais, quand même.
Ouais, ça va, ça passe quand même.
Le début du rock'n'roll.
Ouais.
Bah, si, si. Bah,
c'est
si,
un bon morceau.
Bah, quand même. Bah, ouais.
Et de la cornemuse d'Azerbaïdjan. Incroyable. Et ça, les extraterrestres, ils vont kiffer, je pense.
Wow.
Des chants d'Indiens Navarro aussi.
Chouette.
Ça, j'ai trouvé ça cool, la part de Rikin qui fasse ça.
Carrément. Normal en même temps.
Ouais, ouais. Juste,
mais c'est bien que ça soit fait.
Ouais, quand même.
C'était pas une obligation. Ouais.
Et du coup, comment en fait, ils se sont demandé comment on pourrait lire ce disque, finalement. S'il y a des extraterrestres qui le trouvent.
C'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais, est-ce qu'ils ont un manche-disque au fin fond de l'espace, là,
ça sert
dans
à
leur
quoi.
Soucoupe.
Ouais.
Alors du coup...
Du coup, ils ont mis une tête de lecture,
okay.
Mais ils ont aussi expliqué comment faire si jamais la tête de lecture ne marche plus.
Ouais. Ah oui.
Et là, c'est un truc...
Mais tu m'as montré, alors là, oui.
Ouais.
Tu m'as montré en préparant l'émission, là, les diagrammes qu'ils ont fournis pour essayer de lire le truc, mais c'est... Moi, en voyant ça, j'ai trouvé ça... Bon, c'est incompréhensible. Hein. Tu disais, il y a des scientifiques...
Ouais, il y en a qui ont essayé de se dire, se mettre à la place d'extraterrestres et d'essayer de comprendre. Ben, il y en a, ils ne sont pas arrivés du tout, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais on voit le truc. Et quand on voit le truc, eh ben, moi, ça me dit... En fait, il faut être comme eux pour lire ça. Il faut penser comme un chercheur de l'époque scientifique humain pour lire ça. Parce que c'est vraiment, en fait, leur mode de pensée, je trouve, qu'ils ont transcrit, là.
Ouais.
Il y a presque un truc comme ça.
Ils ont vraiment fait...
C'est comment eux, ils fonctionnent. En fait, c'est ça qu'ils ont réussi à
dans
faire.
Dans leur aussi. Formatage, quoi. Ils ont...
Exactement. Ouais. Et ils ont dessiné leur formatage, je trouve. Et c'est vachement intéressant. Mais je le vois plus comme ça, quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné en le voyant.
Ouais, tu te dis, il faudra un truc simple, qui soit facilement compréhensible.
Mm-hmm.
Mais bon.
Ok.
Voilà. Et du coup, il y en a même, il y a Stephen Hawking qui disait que même c'était dangereux d'envoyer ses disques dans l'espace.
Ah bon,
de dire où nous sommes, d'écrire ce qu'on fait, comment on est.
Ah,
parce
oui.
que s'il y a des méchants extraterrestres qui trouvent le disque,
voilà.
On sait jamais, ils peuvent venir.
Mais ça, c'est un manque de confiance en l'armée américaine. Ok.
Non, mais voilà, c'est particulier quand même. Comme... Voilà. Et tout ça, ça me fait venir à la question, mais ça sert à quoi, finalement?
Ça sert à quoi? Là, c'est clair, vaste débat. Ça sert à quoi?
Ça a quand même coûté 900 millions de dollars.
Ouais.
Je trouve que c'est quand même intéressant de se demander. Alors là, quand même, ouais, ça prend du sens avec le Golden Record, ça prend du sens.
Ouais. Enfin, juste la somme, il faut aussi la relativiser par rapport au budget militaire, etc., de voir un peu...
Ouais, c'est vrai.
C'est ça aussi. Enfin, oui, mais c'est sûr que c'est énormément d'argent, ouais. Pourquoi? Ouais. Les belles photos dont on parlait, hein. Voyager, la connaissance du système solaire, ouais, hein. S'en approcher, d'essayer de, voilà, la connaissance en fait.
Pour le coup, loin, là. Puis d'aller toujours explorer plus loin. Je crois que l'être humain est toujours, il fait toujours ça, quoi.
Mais c'est surtout aussi que c'était les premières à parcourir le système solaire. On n'était jamais allé voir. Même si c'est une sonde c'est déjà plus que la lumière d'un télescope.
Ouais.
Et je crois, ouais, là, ça touche en fait à l'envie quand même d'aller voir derrière la colline.
Ouais, ouais, ouais,
il y a quoi derrière cette colline?
C'est clair, on est tous comme ça, quoi.
C'est... Enfin, l'humain, il a ça, c'est sûr. Ouais. Mm. Et Voyager, ça l'illustre, ouais.
Ça l'illustre bien, ouais.
Clairement.
En plus, sûrement qu'elle survivra plus longtemps que la Terre et le Soleil. De le Soleil, on disait, il va vivre encore 4 milliards d'années.
4-5 milliards d'années.
Ouais. Bah, la sonde, ça se trouve, dans 4 milliards d'années, elle sera en
alors
train de...
ça, en même temps, c'est long, quand même. Hein. Ouais, on sait pas.
On peut le voir comme ça, mais...
On peut imaginer. Ouais.
Peut-être que ça nous survivra à l'espèce humaine, je sais pas.
Peut-être. Ok, ouais, c'est intéressant, tout ça.
Voilà.
T'as fait le tour de ce que tu voulais dire?
Bah, écoute, ouais, hein.
Je crois que là, ces trois émissions, là...
Ouais, c'était une belle session. Voyager, c'est cool, c'est...
Bien fait voyager avec Voyager. Mais merci à toi. Et on va passer à la rubrique à braque et conclure la série d'émissions sur Newton. Et cette fois, on va parler de Newton l'alchimiste. Alors, alchimiste, ça fait un peu sulfureux, un peu qu'est-ce que c'est que cette embrouille de...
On dirait de la magie, un peu, quand même.
Donc ça, bon, ça, c'est un aspect des choses. L'alchimie, au Moyen-Âge, c'était... même si c'était quand même un peu sulfureux, enfin, c'était une science, en fait. Et c'était la science des transformations. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de parler d'alchimie aujourd'hui.
C'était une science à part entière, tu veux dire, c'était...
Oui, ça fait partie des domaines de la connaissance, mais en fait, c'était ésotérique. Ça, c'est sûr aussi.
Ok, ouais.
Donc, ça fait partie des cercles hermétiques, ésotériques, donc tout ce monde-là, de société, voilà. Et tout un réseau aussi d'alchimistes en Europe qui sont, bon, des érudits, des gens aussi... fortunés, qui ont du temps à consacrer à ça, qui se construisent des petits laboratoires.
Actuellement, tu sais, il y en a encore ou...
Est-ce qu'actuellement, il y a encore des alchimistes? Moi, j'en connais pas personnellement. c'est tout ce que je peux te dire. Mais sincèrement, ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi il y en aurait plus.
Qui se disent alchimistes, ouais.
Oui, mais parce qu'il faut comprendre aussi un peu ce que c'est que l'alchimie. Donc, on va peut-être parler un peu de ça, parce que pas tout le monde s'est forcément intéressé à ce que c'est. Et vraiment... Donc il y a une vraie tradition hermétique, et ça veut dire quoi hermétique? On touche quand même à des sphères qui sont spirituelles, en fait. Une tradition hermétique, ça veut dire des rites ou des espèces de... L'idée que la connaissance s'acquiert à travers un certain nombre de secrets.
Ouais, que c'est pas libre d'accès...
Et que c'est à nous de...
préserver le secret.
Alors de le préserver une fois qu'on l'a.
Des méchants.
Mais aussi de... Voilà, des méchants, des ennemis en tout genre. Mais surtout de nous, à chacun de faire sa quête à l'intérieur de soi, de subir des initiations qui vont lui permettre d'appréhender ses secrets et de s'élever dans la hiérarchie et de s'élever dans la connaissance, et donc y compris dans la connaissance de soi-même. Enfin, voilà, c'est pas des imbéciles tous ces gens.
Un aspect philosophique aussi intérieur.
Ah bah clairement.
Ah ouais. La quête intérieure.
Spiritualité, quête intérieure.
Le Graal.
Bah pourquoi pas, le Graal clairement. Ouais, les alchimistes, ils se sont penchés dessus.
Bah ouais.
Donc l'alchimie, c'est la transformation. Mais la transformation, alors on dit vulgairement transformer le plomb en or. Ah oui, pourquoi? Parce que si j'ai plein d'or, le plomb ça vaut rien. Si j'ai plein d'or, je suis riche. Ouais, c'est un aspect des choses aussi, grâce à la pierre philosophale. Ça, c'est un peu les images classiques de l'alchimie. Mais en réalité, transformer le plomb en or, c'est en fait c'est transformer un matériau vulgaire en un matériau subtil, enfin en un matériau de
Ouais, c'est
précieux.
de la chimie, la transformation.
En fait, c'est ça, c'est transformé. Donc, clairement, ils le faisaient, ils avaient toute cette philosophie dont je viens de parler et sur laquelle je ne vais pas plus m'étendre. Mais ils avaient aussi tout un aspect pratique de mélanger des substances, en fait, auxquelles ils attribuaient des vertus ésotériques, etc. Donc, dans leur langage,
potions.
En fait, mais ouais, des potions où, en fait, ils faisaient de la chimie. Ils mélangeaient le mercure avec le soufre, ils regardaient ce qui se passait, ils chauffaient tout ça, ils adoraient, ils avaient des creusets, ils montaient à haute température, enfin, c'était tout ça, l'alchimie.
Ok, tu penses qu'il y a eu des bonnes avancées
Mais
de
la chimie,
par
elle vient de
ça,
là, parce que ce que nous, on appelle la chimie maintenant, c'est quoi?
Ça vient de l'alchimie, finalement.
Bah, au final, oui, moi je trouve...
Ouais, au début, ils ont tout essayé, quoi, en fait. Ils ont mélangé, ils ont essayé, quoi,
bah, c'est
du coup.
Ça.
Ouais, ouais.
Mais puis, bah... Ils faisaient pas des potions, mais par exemple, ne serait-ce que fabriquer la poudre à canon. Mais eux, c'était dans une recherche. Quoi. Il y avait toujours cette recherche ésotérique de toute façon derrière, donc ils s'amusaient pas juste à faire de la poudre à canon, c'était pas leur sujet.
Okay.
Mais par contre, quand je dis faire de la chimie, comme on la décrit maintenant, c'est décrire en fait les interactions entre les atomes et entre les molécules. Alors, les molécules, elles sont constituées d'atomes, hein, c'est ça en fait, c'est des groupes d'atomes et elles peuvent être très grosses comme très simples. L'eau, c'est une molécule qui est constituée H2O, ça veut dire deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc si je ne me perds pas, mais je parle des atomes, donc qui se regroupent en molécules et ces molécules, l'eau, on sait qu'elle déjà elle peut changer d'état. Ça déjà, l'alchimiste, ça l'intéresse, changer d'état, supprimer.
Ouais, ouais.
Passer à l'état gazeux, passer à l'état solide, à l'état liquide, etc. Il y a toute une chimie des transformations et qui est assez intéressante parce que selon les conditions de pression et de température, on peut par exemple passer directement de l'état solide à l'état liquide sans passer, à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Ou on peut avoir des points où vont coexister et le solide et le liquide et le gaz.
Ok, ah ouais, d'accord.
Sur un corps pur. Donc tout ça, isoler des corps purs aussi, c'est pas une évidence. Dans la nature, il y a rien de pur chimiquement. Vous voulez du soufre pur, que des atomes de soufre. Il faut trouver une façon. Dans la nature, c'est toujours un minerai. Il va être oxydé, il va être sous telle ou telle forme, il va être mélangé. Il faut purifier les choses. Ça aussi, les alchimistes, ça fait partie de leur.
Ouais, on imagine souvent des instruments là, comme pour faire des huiles essentielles ou des choses comme ça. Là.
Ouais, ou c'est entre autres.
Ouais.
Et puis je répète, la chaleur, quoi, le creuset.
Ah ouais.
Enfin voilà, donc c'est dans ce contexte-là que Newton, donc parce que c'est quand même de lui qu'on parle, lui était, c'était un des plus grands alchimistes européens de son époque.
Okay.
Il était complètement dedans. En plus de tout ce qu'on a déjà dit hein, sur la gravitation, sur l'optique, les mathématiques, la théologie, on en revient aussi là, hein, là encore, il a écrit plus de théologie que de science.
Ah ouais, il a plus écrit sur Dieu et tout ça que...
Donc là aussi, on rejoint l'alchimie, quelque part, on est entre les deux. Surtout avec cette dimension symbolique. Voilà.
Toucher à tout.
Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que quelque part, ça est toujours dans ce fil conducteur un peu des limites de la science, des limites de ce qu'on peut appréhender, des limites de notre, de ce qu'on appelle la réalité, etc. Tout ce côté-là, dans la science actuelle, il est rejeté. Il ne fait pas partie de ce que la science appelle la science. La théologie, le machin, tout ça, ça ne fait pas partie. L'ésotérisme, l'âme, toutes ces considérations, tout ça, ça ne fait pas partie du monde scientifique, volontairement. Et donc, selon les scientifiques un peu scientistes, ça n'existe pas. Là, on a une dérive, quoi.
Ouais, quand on voit comment ils ont essayé d'expliquer comment lire le disque d'or. Et...
Ouais.
Bon, voilà, c'est l'exemple du moment, mais.
Par
ouais,
exemple.
Flagrant, ouais.
Et donc, lui, Newton, il est là-dedans, complètement. Et ça lui pose aucun problème de naviguer entre tous ces domaines. Et c'est peut-être le dernier, comme ça, des grands scientifiques. Parce que avant, enfin, on parle des Grecs, par exemple, Aristote et compagnie, les philosophes. Mais il y a toute une tradition où, en fait, la connaissance, elle était une. Il y avait les érudits se consacraient leur vie à la connaissance. Ils embrassaient tous les domaines, de la biologie à l'astronomie, à l'astrologie,
à la philosophie, ils ont toujours été dans tous les champs, c'est vrai.
Ils faisaient tout.
Ouais.
C'était pas divisé, quoi.
Newton, il était comme ça encore.
Newton, il était comme ça, et c'est le dernier, parce qu'après, les sciences sont devenues plus spécialisées, quand même.
Ouais, le mathématicien, le physicien.
Ouais,
le
et chimiste, encore, on peut parler même un scientifique, un physicien, ensuite un astrophysicien, ensuite un planétologue, ouais. Par exemple, ensuite celui qui travaille sur l'atmosphère, l'autre qui travaille sur la tectonique, et celui dans l'atmosphère, lui, il travaille plutôt sur la haute atmosphère, et l'autre sur la basse, et ça n'en finit pas. Et au final, quand on regarde vraiment un chercheur qui fait un vrai travail de recherche pointu à l'heure actuelle, il y a réellement dans le monde une communauté de 10, 20 chercheurs qui font vraiment la même chose que lui.
C'est tout. 10, 20 personnes qui cherchent. Ouais. Ah ouais.
Après, il y a des domaines qui sont bien plus populaires que d'autres, mais une moyenne, un ordre de grandeur, c'est ça.
Pour dire à quel point. Des gens qui ont une vision d'ensemble, qui arrivent un peu à jongler.
Ah non, ça n'existe. Bah, non, ça, il n'y en a plus.
Ah ouais, ça, c'est fini, ouais.
C'est vraiment spécialisé.
Ok.
Bon, bref. Et donc, Newton, lui, il est à l'inverse de ça. Bon, après, c'est pas parce qu'on n'est pas Newton qu'on n'a pas le droit de faire de recherche. Hein. Heureusement, c'est pas parce qu'on n'est pas Coltrane qu'on ne peut pas faire de musique. Mais,
tu voulais nous parler de la force.
Ouais, exactement. Et... C'est exactement là que je veux en venir. C'est que de tout ça, Newton, il a tiré la notion de force, la notion d'interaction. Parce qu'il parle de la force de gravitation. C'est quoi la force de gravitation? Je peux pas la voir. Je peux pas la toucher, moi, la gravitation. Je peux voir ses conséquences si je suis dans cette vision-là. Alors, mettons-nous dans cette vision où le centre de la... tout est attiré vers le centre de la Terre et va tomber à telle vitesse. Ok.
Ouais, c'est magique, quelque part.
Cette force-là, il l'appelle une force, mais le mot force, il est très vaste. Il est tout comme tout ce qu'on vient de dire, là, toutes ces thématiques, c'est hyper large. La force spirituelle, la force...
La force de Star Wars.
La force de Maître Yoda, au final, moi je trouve qu'on n'est pas si loin que ça. Quoi.
En fait, il enlève la gravité des objets.
Donc, voilà, clairement, l'idée de force, elle vient de là. Elle vient de l'alchimie. Il n'y aurait pas eu tout ça chez Newton, il n'aurait pas pu sortir ce concept. Or, ce concept-là, il est fondateur en physique. Donc, maintenant, la physique est basée sur cette idée de force.
Ouais.
Les quatre interactions fondamentales, force électromagnétique, force gravitationnelle, interaction courte,
C'est son ouverture d'esprit, finalement, qui l'a aidé à...
Bah, je trouve que c'est flagrant dans le portrait, quand on lit son portrait. Moi, je ne l'ai pas connu intimement, mais quand on lit
ça... On pourrait supposer que son ouverture d'esprit lui a ouvert beaucoup de portes.
Je trouve que c'est ce qui se dégage du portrait de cet homme, en tout cas.
Il s'est pris une pomme sur la tronche, quand même.
Voilà. Donc... je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur Newton.
Eh ben merci, c'était super.
Est-ce qu'il y a un truc que toi tu verrais rajouter là-dessus ou un commentaire à faire?
Non.
Eh ben écoute.
On vous remercie d'avoir écouté l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.